Chapitre 5 Aux Champs-Élysées. Je fus tout à coup emporté dans de muettes ténèbres au milieu desquelles paraissaient vaguement des formes inconnues qui me remplissaient d'horreur. Mes yeux s'accoutumant peu à peu à l'obscurité, je distinguais, au bord d'un fleuve qui roulait des eaux lourdes, l'ombre effrayante d'un homme coiffé d'un bonnet asiatique et portant une rame sur l'épaule. Je reconnus l'ingénieux Ulysse. De ses joues creuses pendait une barbe décolorée, et je l'entendis soupirer d'une voix éteinte. « J'ai faim, je ne vois plus clair, et mon âme est comme une lourde fumée errant dans les ténèbres. Qui me fera boire du sang noir pour qu'il me souvienne encore de mes navires peints de vermillon, de ma femme irréprochable et de ma mère ?» En entendant ce discours, je compris que j'étais transporté dans les enfers. Je tâchais de m'y diriger de mon mieux, d'après les descriptions des poètes, et je m'acheminais vers une prairie où luisait une faible et douce lumière. Après une demi-heure de marche, je rencontrai des ombres qui, assemblées sur un champ d'asphodèles, discouraient ensemble. Il s'y trouvait des âmes de tous les temps et de tous les pays, et j'y reconnus de grands philosophes mêlés à de pauvres sauvages. Cachés dans l'ombre d'un myrte, j'écoutais leur conversation. J'entendis d'abord Pyrrhon demander avec un air de douceur, les mains sur sa bêche comme un bon jardinier, « Qu'est-ce que l'âme ?» Les ombres qui l'entouraient répondirent presque à la fois. Le divin Platon dit avec subtilité « L'âme est triple. Nous avons une âme très grossière dans le ventre, une âme affectueuse dans la poitrine et une âme raisonnable dans la tête. L'âme est immortelle. Les femmes n'ont que deux âmes, il leur manque le raisonnable. » Un père du concile de Mâcon lui répondit « Platon, vous parlez comme un idolâtre. Le concile de Mâcon, la majorité des voix, accorda en 585 une âme immortelle à la femme. D'ailleurs, la femme est un homme, puisque Jésus-Christ, né d'une vierge, est appelé dans l'Évangile le Fils de l'homme. » Aristote haussa les épaules et répondit à son maître Platon avec une respectueuse fermeté. « À mon compte, ô Platon, moi je trouve cinq âmes dans l'homme et chez les animaux. Premièrement la nutritive, deuxièmement la sensitive, troisièmement la motrice, quatrièmement l'appétitive et cinquièmement la raisonnable. L'âme est la forme du corps, elle le fait périr en périssant elle-même. » Alors les opinions s'opposaient les unes aux autres. Origène. L'âme est matérielle et figurée. Saint Augustin. L'âme est incorporelle et immortelle. Hegel. L'âme est un phénomène contingent. Schopenhauer. L'âme est une manifestation temporaire de la volonté. Un Polynésien. L'âme est un souffle et quand je me suis vu sur le point d'expirer, je me suis pincé le nez pour tenir mon âme dans mon corps, mais je n'ai pas serré avec assez de force et je suis mort. Une Floridienne. Moi, je mourus en couche. On mit sur mes lèvres la main de mon petit enfant pour qu'il y retint le souffle de sa mère, mais il était trop tard, mon âme glissa entre les doigts du pauvre innocent. Descartes. J'ai établi solidement que l'âme était spirituelle. Quant à savoir ce qu'elle devient, je m'en rapporte à M. Digby qui en a traité. La maîtrie. Où est ce M. Digby? Qu'on nous l'amène? Minos. Messieurs, je le ferai rechercher soigneusement dans tous les enfers. Le grand Albert. Il y a 30 arguments contre l'immortalité de l'âme et 36 pour, soit une majorité de 6 arguments en faveur de l'affirmative. Bas de cuir. L'esprit d'un chef courageux ne meurt point, ni sa hache, ni sa pipe. Le rabbin Maïmoudine. Il est écrit, le méchant sera détruit et il ne restera rien de lui. Saint Augustin, ah, tu te trompes, rabbin Maïmoudine. Il est écrit, les maudits iront au feu éternel. Origène, oui, oui, Maïmoudine se trompe. Le méchant ne sera pas détruit, mais il sera diminué. Il deviendra tout petit et même imperceptible. C'est ce qu'il faut entendre des damnés, et les âmes saintes s'abîment en Dieu. Jean Scott. La mort fait rentrer les êtres en Dieu comme un son qui s'évanouit dans l'air. Bossuet. Origène et Jean Scott tiennent ici des discours tout dégoûtants des poisons de l'erreur. Ce qui est dit au livre saint des tourments de l'enfer doit être entendu au sens précis et littéral. Toujours vivants et toujours mourants, immortels pour leur peine, trop forts pour mourir, trop faibles pour supporter, les damnés gémiront éternellement sur les lits de flammes outrées de furieuses et irrémédiables douleurs. Saint Augustin. Oui, ces vérités doivent être prises au sens littéral. C'est la vraie chair des damnés qui souffrira dans les siècles des siècles. Les enfants morts, sitôt le jour ou dans le ventre de leur mère, ne seront point exemptés de ces supplices. Ainsi le veut la justice divine. Si l'on a peine à croire que des corps plongés dans les flammes ne s'y consument jamais, c'est un pur effet de l'ignorance, et parce qu'on ne sait pas qu'il y a des chairs qui se conservent dans le feu. Telles sont celles du faisan. J'en fais l'expérience à Hippone, où mon cuisinier, ayant apprêté un de ses oiseaux, m'en servit une moitié. Au bout de 15 jours, je redemandai l'autre moitié, qui se trouvera encore bonne à manger. Par quoi il apparut que le feu l'avait conservé, comme il conservera les corps des damnés. Sumangala. Tout ce que je viens d'entendre est noir des thèmes de l'Occident. La vérité est que les âmes passent dans divers corps avant de parvenir au bienheureux Nirvana, qui met fin à tous les maux de l'être. Gautama traversa 550 incarnations avant de devenir Bouddha. Il fut roi, esclave, singe, éléphant, corbeau, grenouille, platane, etc. L'Ecclésiaste. Oh, les hommes meurent comme les bêtes, et leur sort est égal. Comme l'homme meurt, les bêtes meurent aussi. Les uns et les autres respirent de même, et l'homme n'a rien de plus que la bête. Tacite. Oh, ce discours est concevable dans la bouche d'un juif façonné à la servitude. Pour moi, je parlerai en romain. L'âme des grands citoyens n'est point périssable. Voilà ce qu'il est permis de croire. Mais on offense la majesté des dieux en supposant qu'ils accordent l'immortalité aux âmes des esclaves et des affranchis. Cicéron. Hélas, mon fils, tout ce qu'on dit des enfers est un tissu de mensonges. Je me demande si moi-même je suis immortel, autrement que par la mémoire de mon consulat, qui durera toujours. Socrate, pour moi, je crois à l'immortalité de l'âme. C'est un beau risque à courir, une espérance dont il faut s'enchanter soi-même. Victor Cousin, cher Socrate, l'immortalité de l'âme que j'ai démontrée avec éloquence est principalement une nécessité morale. Car la vertu est un beau sujet de rhétorique, et si l'âme n'est pas immortelle, la vertu ne sera pas récompensée, et Dieu ne serait pas Dieu s'il ne prenait pas soin de mes sujets de discours français. Sénèque. Sont-ce là les maximes d'un sage? Considère, philosophe des Gaules, que la récompense des bonnes actions, c'est de les avoir faites, et qu'aucun prix digne de la vertu ne se trouve hors d'elle-même. Platon. Il est pourtant des peines et des récompenses divines. À la mort, l'âme du méchant va habiter le corps d'un animal inférieur, cheval, hippopotame ou femme. L'âme du sage se mêle au cœur des dieux. Papinien. Oh, pourrait-on prétendre que dans la vie future, la justice des dieux corrige la justice humaine? Et il est bon, au contraire, que les individus qui furent frappés sur la terre de châtiment, qu'ils ne méritaient pas, et qui leur furent infligés par des magistrats sujets à l'erreur, mais réguliers, prononçant toute compétence, continuent de subir leur peine dans les enfers. La justice humaine y est intéressée, ce serait l'affaiblir que de proclamer que ces arrêts peuvent être cassés par la sagesse divine. Un Esquimau. Dieu est très bon pour les riches et très méchant pour les pauvres. C'est donc qu'il aime les riches et qu'il n'aime pas les pauvres. Et puisqu'il aime les riches, il les recevra dans le paradis. Et puisqu'il n'aime pas les pauvres, il les mettra en enfer. Un bouddhiste chinois.
Sachez que tout homme a deux âmes, l'une bonne qui se réunira à Dieu et l'autre mauvaise qui sera tourmentée.
Le vieillard de Tarente. Ô sage, répondez à un vieillard ami des jardins. Les animaux ont-ils une âme? Descartes et Malebranche. Ah non pas, ce sont des machines. Aristote. Ils sont des animaux et ont une âme comme nous. Cette âme est en rapport avec leurs organes. Épicure. Oh, Aristote, pour leur bonheur, cette âme est comme la nôtre, périssable et sujette à la mort. Chères ombres, attendez patiemment dans ces jardins le temps où vous perdrez tout à fait avec la volonté cruelle de vivre la vie elle-même et ses misères. Reposez-vous par avance dans la paix que rien ne trouble. Piron. Qu'est-ce que la vie? Claude Bernard. La vie, c'est la mort. Et qu'est-ce que la mort? Demanda encore Piron. Personne ne lui répondit. Et la troupe des ombres s'éloigna sans bruit comme une nuée chassée par le vent. Je me croyais seul dans la prairie d'Asphodel quand je reconnus Ménippe à son air de gaieté cynique. Comment, lui dis-je, ces morts, ô Ménippe, parlent-ils de la mort comme s'ils ne la connaissaient pas? Et pourquoi se montrent-ils aussi incertains des destinées humaines que s'ils étaient encore sur la terre? C'est sans doute, me répondit Ménippe, qu'ils demeurent encore humains et mortels en quelque manière. Quand ils seront entrés dans l'immortalité, ils ne parleront ni ne penseront plus. Ils seront semblables aux dieux. Ariste et Polyphile ou le langage métaphysique. Ariste. Bonjour, Polyphile. Quel est ce livre où vous semblez plonger tout entier? Polyphile. C'est un manuel de philosophie, cher Ariste, un de ces petits ouvrages qui vous mettent dans la main la sagesse universelle. Il fait le tour des systèmes à partir des vieux Éléates jusqu'aux derniers éclectiques, et il aboutit à M. Lachelier. J'en lus d'abord la table des matières, puis l'ayant ouvert au milieu ou environ, je tombai sur la phrase que voici. « L'âme possède Dieu dans la mesure où elle participe de l'absolu. » Ariste. Oh, tout donne à croire que cette pensée fait partie d'une argumentation solide. Il n'y aurait pas de bon sens à la considérer isolément. Ainsi ne pris-je point garde à ce qu'elle pouvait signifier. Je ne cherchais pas à découvrir ce qu'elle contenait de vérité. Je m'attachais uniquement à la forme verbale qui n'est pas singulière, sans doute ni étrange en aucune façon, et qui n'offre à un connaisseur tel que vous rien, je pense, de précieux ou de rare. Du moins peut-on dire qu'elle est métaphysique, et c'est à quoi je songeais quand vous êtes venu. Pouvez-vous me communiquer les réflexions que j'ai malheureusement interrompues? Ce n'était qu'une rêverie. Je songeais que les métaphysiciens, quand ils se font un langage, ressemblent à des remouleurs qui passeraient, au lieu de couteaux et de ciseaux, des médailles et des monnaies à la meule, pour en effacer l'exergue, le millésime et l'effigie. Quand ils ont tant fait qu'on ne voit plus sur leurs pièces de 100 sous ni Victoria, ni Guillaume, ni la République, ils disent « Ces pièces n'ont rien d'anglais, ni d'allemand, ni de français. Nous les avons tirées hors du temps et de l'espace. Elles ne valent plus 5 francs, elles sont d'un prix inestimable, et leur cours est étendu infiniment. » Ils ont raison de parler ainsi. Par cette industrie de gagne-petit, les mots sont mis du physique au métaphysique. On voit d'abord ce qu'ils y perdent, on ne voit pas tout de suite ce qu'ils y gagnent. Mais comment, Polyphile, découvrirez-vous à première vue ce qui assurera dans l'avenir le gain ou la perte? Je reconnais, Ariste, qu'il ne serait décent de nous servir ici de la balance où le lombard du pont au change pesait ses agnelles et ses ducats. Observons d'abord que le rémouleur spirituel a beaucoup passé à la meule les verbes posséder et participer qui se trouvent dans la phrase du petit manuel où ils luisent tout dégagés de leur impureté première. En effet, Polyphile, on ne leur a rien laissé de contingent. Et l'on a poli de même le mot absolu qui finit la phrase. Quand vous êtes entré, je faisais 2 petites réflexions à l'endroit de ce mot d'absolu. La première est que les métaphysiciens montrèrent de tout temps une sensible préférence pour les termes négatifs comme non-être, intangible, inconscient. Ils ne sont jamais si à l'aise que lorsqu'ils s'étendent sur l'infini et sur l'indéfini où s'attache l'inconnaissable. En 3 pages, Hegel, pris au hasard dans sa phénoménologie, sur 26 mots, sujet de phrase considérable, j'ai trouvé 19 termes négatifs pour 7 termes affirmatifs, je veux dire 7 termes dont le sens ne se trouvait pas détruit à l'avance par quelques préfixes d'esprit contrariants. Je ne prétends pas que la proportion se maintienne dans le reste de l'ouvrage, je n'en sais rien. Mais cet exemple vient illustrer une remarque dont l'exactitude peut être vérifiée aisément. Tel est, autre que j'ai pu le savoir, l'usage des métaphysiciens, ou pour mieux dire des métataphysiciens, car c'est une merveille à joindre aux autres que votre science soit elle-même un nom négatif, tiré de l'ordre où furent rangés les livres d'Aristote, où vous vous intituliez « Ceux qui vont après les physiciens ». J'entends bien que vous supposez que ceux-ci sont en pile et que prendre place après, c'est monter dessus. Vous n'en avouez pas au moins que vous êtes hors nature. Ariste, poursuivez une idée de grâce, cher Polyphile. Si vous sautez sans cesse de l'une à l'autre, j'aurai peine à vous suivre. Donc, je m'en tiens donc à la prédilection qui attire les distillateurs d'idées vers les fernes qui expriment la négation d'une affirmation. Et cette prédilection, j'en conviens, n'apparaît même rien de bizarre ni de fantasque. Ce n'est point chez eux des règlements, des dépravations, manies. Elle répond aux besoins naturels des âmes abstrayantes. Les hab, les in, les non agissent plus énergiquement encore que la meule. Ils vous effacent d'un coup les mots les plus saillants. Parfois, à vrai dire, ils vous les retournent seulement et vous les mettent sans dessus-dessous. Ou bien encore, ils leur communiquent une force mystérieuse et sacrée, comme on voit dans Absolu, qui est beaucoup plus que Solu. Absolutus, c'est l'ampleur patricienne de Solutus et un grand témoignage de la majesté latine. Voilà ma première remarque. La seconde est que les sages, qui comme vous, Ariste, parlent métaphysique, prennent soin d'effacer de préférence les termes dont l'effigie avait déjà perdu avant eux sa netteté originale. Car il faut avouer qu'à nous aussi, genre du commun, il arrive de limer les mots et de les défigurer peu à peu. En quoi nous sommes sans le savoir des métaphysiciens? Oh, ce que vous dites là, Polyphile, est bon à retenir pour que vous ne soyez pas tenté plus tard de prétendre que les opérations métaphysiques ne sont pas naturelles à l'homme, légitimes et en quelque sorte nécessaires. Mais poursuivez. J'observe, Ariste, que beaucoup d'expressions en passant de bouche en bouche dans la suite des générations prennent du poli et comme on dit en termes d'art, du flou. Surtout ne pensez point, Ariste, que je blâme les métaphysiciens s'ils choisissent volontiers pour les polir les mots qui leur arrivent un peu frustes. De la sorte, ils s'éparent d'une bonne moitié de la besogne. Parfois, plus heureux encore, ils mettent la main sur des mots qui, par un long et universel usage, ont perdu de temps immémorial toute trace d'effigie. La phrase du petit manuel en contient jusqu'à deux de cette sorte. « Ah, vous voulez parler, je suis sûr, des mots « Dieu » et « âme ». Ah, c'est vous qui les avez nommés, Ariste. Ces deux mots-là, frottés durant des siècles, n'ont plus trace de figure. Avant la métaphysique, ils étaient déjà parfaitement métaphysiciés. Jugez vous-même si l'abstracteur de profession peut laisser échapper ces sortes de mots, qui semblent apprêtés pour son usage et qui le sont en effet, car les foules inconnues les ont travaillés sans conscience, il est vrai, mais avec un instinct philosophique. Enfin, pour le cas où ils croient penser ce qui n'avait point été pensé et concevoir ce qui n'avait point été conçu, les philosophes frappent des mots. Ceux-là, certes, sortent du balancier lisse comme des jetons, mais il a bien fallu employer à leur fabrication le vieux métal commun. Et cela, comme le reste, est à considérer. Ah, vous venez de dire, si je vous ai bien entendu, Polyphile, que les métaphysiciens parlent une langue composée de termes, les uns empruntés au langage vulgaire dans ce qu'il a de plus abstrait, ou de plus général, ou de plus négatif, et les autres créés artificiellement avec des éléments empruntés au langage vulgaire. Mais où voulez-vous en venir? Accordez-moi d'abord, Ariste, que tous les mots du langage humain furent frappés à l'origine d'une figure matérielle et que tous représentèrent dans leur nouveauté quelque image sensible. Il n'est point de terme qui, primitivement, n'ait été le signe d'un objet appartenant à ce monde des formes et des couleurs, des sons et des odeurs, et de toutes les illusions où les sens sont amusés impitoyablement. C'est en nommant le chemin droit et le sentier tortueux qu'on exprima les premières idées morales. Le vocabulaire des hommes naquit sensuel. Et cette sensualité est si bien attachée à sa nature qu'elle se retrouve encore dans les termes auxquels le sentiment commun a prêté par la suite un vague spirituel, et jusque dans les dénominations fabriquées par l'art des métaphysiciens pour exprimer l'abstraction à sa plus haute puissance. Celles-là même n'échappent pas au matérialisme fatal du vocabulaire. Elles tiennent encore par quelques racines l'antique imagerie de la parole humaine. Oui, j'en conviens. Et tous ces mots, ou défigurés par l'usage, ou polis, ou même forgés en vue de quelque construction mentale, nous pouvons nous représenter leur figure originelle. Les chimistes obtiennent des réactifs qui font paraître sur le papyrus ou sur le parchemin l'encre effacée. C'est à l'aide de ces réactifs qu'on lit les palimpsestes. Et si l'on appliquait un procédé analogue aux écrits des métaphysiciens, si l'on mettait en lumière le sens primitif et concret qui demeure invisible et présent sous le sens abstrait et nouveau, on trouverait des idées bien étranges et parfois peut-être instructives. Essayons, si vous voulez, Ariste, de rendre la forme et la couleur, la vie première aux mots qui composent la phrase de mon petit manuel « L'âme possède Dieu dans la mesure où elle participe de l'absolu ». En cette tentative, la grammaire comparée nous portera le même secours que le réactif chimique offre au déchiffreur de palimpseste. Elle nous fera voir le sens que présentait cette dizaine de mots, non point sans doute à l'origine du langage, qui se perd dans les ombres du passé, mais du moins à une époque bien antérieure à tout souvenir historique. Âme, Dieu, mesure, posséder, participer, peuvent être ramenés à leur signification arienne. Absolu se laisse décomposer en ces éléments antiques. Or, en redonnant à ces mots leur jeune éclair visage, voici, enfin, sauf erreur, ce que nous obtenons. Le souffle est assis sur celui qui brille, au boisson du don qu'il reçoit en ce qui est tout délié. Pensez-vous, Polyphile, qu'il y ait de grandes conséquences à tirer de cela ? Il y a du moins celle-ci, que les métaphysiciens construisent leur système avec les débris méconnaissables des signes par lesquels les sauvages exprimaient leur joie, leur désir et leur crainte. Ils subissent en cela les conditions nécessaires du langage. Sans chercher si cette fatalité commune est pour eux un sujet d'humiliation ou d'orgueil. Je songe aux aventures extraordinaires par lesquelles les termes qu'ils emploient ont passé du particulier au général, du concret à l'abstrait. Comment, par exemple, âme, qui était le souffle chaud du corps, a changé de sens au point qu'on peut dire « cet animal n'a point d'âme ». Ce qui signifie proprement « celui qui souffle n'a pas de souffle ». Et comment encore le même nom a été donné successivement à un météore, à un fétiche, à une idole et à la cause première des choses? Ce sont là, pour de pauvres syllabes, des fortunes merveilleuses qui m'effraient. En les rapportant avec exactitude, on travaillerait à l'histoire naturelle des idées métaphysiques. Il faudrait suivre les modifications successives qu'a subi le sens de mots tels que âme, esprit, et découvrir comment peu à peu se sont formées les significations actuelles. On jetterait ainsi une lumière terrible sur l'espèce de réalité que ces mots expriment. Mais vous parlez, Polyphile, comme si les idées qu'on attache à un mot, dépendantes de ce mot, naissaient, changeaient, mouraient avec lui. Et parce qu'un nom comme Dieu, âme ou esprit a été successivement le signe de plusieurs idées dissemblables entre elles, vous croyez saisir dans l'histoire de ce nom la vie et la mort de ces idées. Enfin, vous rendez la pensée métaphysique sujette de son langage et soumise à toutes les infirmités héréditaires des termes qu'elle emploie. Cette entreprise est si insensée que vous n'osez avouer que, mot couvert, et avec inquiétude. Non, mon inquiétude est seulement de savoir jusqu'où n'iront point les difficultés que je soulève. Tout mot est l'image d'une image, le signe d'une illusion, pas autre chose. Et si je connais que c'est avec les restes effacés, dénaturés d'images antiques et d'illusions grossières qu'on représente l'abstrait, aussitôt l'abstrait cesse de m'être représenté, et je ne vois plus que des cendres de concret. Et au lieu d'une idée pure, les poussières subtiles des fétiches, des amulettes et des idoles qu'on a broyées. Mais ne disiez-vous pas tout à l'heure que le langage métaphysique était tout entier poli et comme passé à la meule? Et qu'entendiez-vous par là, sinon que les termes y sont dépouillés et abstraits? Et cette meule dont vous parliez, qu'est-elle, sinon la définition qu'on leur donne? Vous oubliez à présent que dans l'exposé de toute doctrine métaphysique, les termes sont exactement définis et que, abstraits par définition, ils ne gardent rien du concret qu'ils tenaient d'une acception antérieure. Oui, oui, vous définissez les mots par d'autres mots. En sont-ils moins des mots humains? C'est-à-dire de vieux cris, de désirs ou d'épouvante, jetés par des malheureux devant les ombres et les lumières qui leur cachaient le monde? Comme nos pauvres ancêtres des forêts et des cavernes, nous sommes enfermés dans nos sens qui nous bornent l'univers. Nous croyons que nos yeux nous le découvrent, et c'est un reflet de nous-mêmes qu'il nous renvoie. Et nous n'avons encore pour exprimer les émotions de notre ignorance que la voix du sauvage, ses bégaiements un peu mieux articulés et ses hurlements adoucis. Ariste, voilà tout le langage humain. Oh, si vous le méprisez chez le philosophe, méprisez-le donc dans le reste des hommes. Ceux qui traitent des sciences exactes emploient le même vocabulaire qui commença de se former dans les premiers balbutiements des hommes et qui pourtant ne manquent pas d'exactitude. Et les mathématiciens, qui, comme nous, spéculent sur des abstractions, parlent une langue qui pourrait, comme la nôtre, être ramenée au concret, puisque c'est une langue humaine. Vous auriez beau jeu, Polyphile, s'il vous plaisait de matérialiser un axiome de géométrie ou une formule algébrique. Mais vous ne détruirez pas pour cela l'idéal qui y est. Vous montreriez au contraire en l'ôtant qu'il y avait été mis. Sans doute, mais si ni le physicien ni le géomètre ne se trouvent dans le cas du mathématicien, dans les sciences physiques et dans les sciences mathématiques, l'exactitude du vocabulaire dépend uniquement des rapports du nom avec l'objet ou le phénomène qu'il désigne. C'est là une mesure qui ne trompe pas. Et comme le nom et la chose sont pareillement sensibles, nous approprions sûrement l'un à l'autre. Ici, le sens étymologique, la valeur intime du terme n'est d'aucune importance. La signification du mot est déterminée trop exactement par l'objet sensible qu'il représente pour que toute autre exactitude ne soit pas superflue. Qui songerait à rendre plus précises les idées que nous procurent les termes acides et bases dans l'acception que leur donne le chimiste? C'est pourquoi l'on n'aurait pas le sens commun à rechercher l'histoire des dénominations qui entrent dans la terminologie des sciences. Un mot de chimie, une fois installé dans le formulaire, n'a pas à nous révéler les aventures qui lui arrivèrent du temps de sa folle jeunesse, quand il courait les bois et les montagnes. Il ne s'amuse plus. Son objet et lui peuvent être embrassés du même regard et sans cesse confrontés. Alors vous me parlez aussi du géomètre. Mais le géomètre spécule sur des abstractions, sans doute, mais bien différentes des abstractions métaphysiques. Celles de la mathématique sont extraites des propriétés sensibles et mesurables des corps. Elles constituent une philosophie physique. Il en résulte que les vérités mathématiques, bien qu'intangibles par elles-mêmes, peuvent être comparées sans cesse à la nature qui, sans jamais les dégager entièrement, laisse paraître qu'elles sont toutes en elles. Leur expression n'est pas dans le langage, elle est dans la nature des choses. Elle est précisément dans les catégories du nombre et de l'espace sous lesquelles la nature se manifeste l'homme. aussi le langage de la mathématique. N'a-t-il besoin pour être excellent que d'être soumis à des conventions stables? Si chaque terme y concret y désigne une abstraction, cette abstraction a dans la nature sa représentation concrète. C'est, si vous voulez, une figure grossière, une sorte d'épaisse et de rude caricature, mais ce n'en est pas moins une image sensible. Le mot s'applique directement à elle parce qu'il est dans son plan et de là, il se transporte sans difficulté sur l'idée purement intelligible qui correspond à l'idée sensible. Mais il n'en va pas de même de la métaphysique, où l'abstraction n'est pas non plus le résultat visible de l'expérience, comme dans la physique, non plus l'effet d'une spéculation sur la nature sensible, comme dans la mathématique, mais uniquement le produit d'une opération de l'esprit qui tire d'une chose certaine qualité, pour lui seul intelligible et concevable, dont on sait seulement qu'il a l'idée, qu'il ne fait connaître que par le discours qu'il en tient, et qui par conséquent n'ont d'autre caution que la parole. Si ces abstractions existent véritablement et par elles-mêmes, elles résident dans un lien accessible à la seule intelligence. Elles habitent un monde que vous appelez l'absolu, par opposition à celui-ci, dont je dirais seulement qu'à notre sens, il n'est pas absolu. Et si ces deux mondes sont l'un dans l'autre, c'est leur affaire et non la mienne. Il me suffit de connaître que l'un est sensible et que l'autre ne l'est pas, que le sensible n'est pas intelligible et que l'intelligible n'est pas sensible. Dès lors, le mot et la chose ne peuvent s'appliquer l'un à l'autre, n'étant pas dans le même lieu. Ils ne sauraient se connaître l'un l'autre puisqu'ils ne sont pas dans le même monde. Métaphysiquement, où le mot est toute la chose, où il ne sait rien de la chose. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait qu'il y eût des mots absolument abstraits de tout sensualisme, et il n'y en a pas. Les mots qu'on dit abstraits ne le sont que par destination. Ils jouent le rôle de l'abstrait comme un comédien représente le fantôme de Hamlet. Oh, vous mettez des difficultés où il n'y en eut jamais. À mesure que l'esprit a abstrait ou, si vous voulez, décomposé, et comme vous disiez tout à l'heure, distillé la nature pour en tirer l'essence, il a de même abstrait, décomposé, distillé des mots, afin de représenter le produit de ses opérations transcendantes. D'où il résulte que le signe est exactement appliqué à l'objet. Mais Ariste, je vous ai assez fait voir, et sous divers aspects, que l'abstrait dans les mots n'est qu'un moindre concret. Le concret, aminci et exténué, est encore le concret. Il ne faut pas tomber dans le travers de ces femmes qui, parce qu'elles sont maigres, veulent passer pour de purs esprits. Vous imitez les enfants qui, d'une branche de sureau, ne gardent que la moelle pour en faire des marmousets. Ces marmousets sont légers, mais ce sont des marmousets de sureau. De même, vos termes qu'on dit abstraits sont seulement devenus moins concrets. Et si vous les tenez pour absolument abstraits, tout tiré hors de leur propre véritable nature, c'est pure convention. Mais si les idées que représentent ces mots ne sont pas, elles, des conventions pures, si elles sont réalisées autre part qu'en vous-même, si elles existent dans l'absolu ou en tout autre imaginaire lieu qu'il vous plaira désigner, si elles sont, enfin, elles ne peuvent être énoncées, elles demeurent ineffables. Les dire, c'est les nier. Les exprimer, c'est les détruire. Car le mot concret étant le signe de l'idée abstraite, celle-ci aussitôt signifiée devient concrète, et voilà toute la quintessence perdue. Mais si je vous dis que pour l'idée comme pour le mot, l'abstrait n'est qu'un moindre concret, Votre raisonnement tombe par terre. Mais vous ne direz pas cela. Ce serait ruiner toute la métaphysique et faire trop de tort à l'âme, à Dieu et subséquemment à ses professeurs. Je sais bien que Hegel l'a dit, que le concret est l'abstrait et que l'abstrait est le concret. Mais aussi cet homme pensif a mis votre science à l'envers. Vous conviendrez, Ariste, ne fût-ce que pour rester dans les règles du jeu, que l'abstrait est opposé au concret. Or, le mot concret ne peut être le signe de l'idée abstraite. Il n'en saurait être que le symbole, et pour mieux dire l'allégorie. Le signe marque l'objet et le rappelle, il n'a pas de valeur propre. Le symbole tient lieu de l'objet. Il ne le montre pas, il le représente. Il ne le rappelle pas, il l'imite. Il est une figure. Il a par lui-même une réalité et une signification. Aussi étais-je dans la vérité, en recherchant l'essence contenue dans les mots âme, Dieu, absolu, qui sont des symboles et non pas des signes. L'âme possède Dieu dans la mesure où elle participe de l'absolu. Mais qu'est-ce que cela, sinon un assemblage de petits symboles qu'on a beaucoup effacés, j'en conviens, qui ont perdu leur brillant et leur pittoresque, mais qui demeurent encore des symboles par force de nature. L'image y est réduite au schéma, mais le schéma, c'est l'image encore. Et j'ai pu, sans infidélité, substituer celle-ci à l'autre. C'est ainsi que j'ai obtenu. Le souffle est assis sur celui qui brille au boisseau du don qu'il reçoit en ce qui est tout délié ou subtil. D'où nous tirons sans peine? Celui dont le souffle est un signe de vie, l'homme, prendra place, sans doute après que le souffle sera exhalé, dans le feu divin, source et foyer de la vie, et cette place lui sera mesurée sur la vertu qui lui a été donnée, par les démons j'imagine, d'étendre ce souffle chaud, cette petite âme invisible, à travers l'espace libre, le bleu du ciel probablement. Et remarquez que cela vous a l'air d'un fragment d'hymne védique, que cela sent la vieille mythologie orientale. Je ne réponds pas d'avoir établi ce mythe primitif dans toute la rigueur des lois qui régissent le langage. Peu importe. Il suffit qu'on voie que nous ayons trouvé des symboles et un mythe dans une phrase qui était essentiellement symbolique et mythique, puisqu'elle était métaphysique. Je crois vous l'avoir assez fait sentir, Ariste. Toute expression d'une idée abstraite ne saurait être qu'une allégorie. Par un sort bizarre, ces métaphysiciens qui croient échapper au monde des apparences sont contraints de vivre perpétuellement dans l'allégorie. Poètes tristes, ils décolorent les fables antiques, et ils ne sont que des assembleurs de fables. Ils font de la mythologie blanche. Adieu, cher Polyphile, je sors non persuadé. Si vous aviez raisonné dans les règles, il m'aurait été facile de réfuter vos arguments. Le prieuré. Je trouvais mon ami Jean dans le vieux prieuré dont il habite les ruines depuis 10 ans. Il me reçut avec la joie tranquille d'un ermite délivré de nos craintes et de nos espérances, et me fit descendre au verger inculte, où chaque matin il fume sa pipe de terre entre ses pruniers couverts de mousse. Là, nous nous assîmes, en attendant le déjeuner, sur un banc, devant une table boiteuse, au pied d'un mur écroulé, où la saponnière balance les grappes rosées de ses fleurs, en même temps flétries et fraîches. La lumière humide du ciel tremblait aux feuilles des peupliers, qui murmuraient sur le bord du chemin. Une tristesse infinie et douce passait sur nos têtes, avec des nuages à gris pâle. Après m'avoir demandé, par un reste de politesse, des nouvelles de ma santé et de mes affaires, Jean me dit d'une voix lente, le front soucieux, « Bien que je ne dise jamais, mon ignorance n'est pas si bien gardée, qu'il me soit parvenu dans mon ermitage, que vous avez naguère contredit, à la deuxième page d'un journal, un prophète assez ami des hommes pour enseigner que la science et l'intelligence sont la source et la fontaine, le puits et la citerne de tous les maux dont souffrent les hommes. Ce prophète, si j'ai de bons avis, soutenait que, pour rendre la vie innocente et même aimable, il suffit de renoncer à la pensée et à la connaissance, et qu'il n'est de bonheur au monde que dans une aveugle et douce charité. Sage précepte, maxime salutaire, qu'il eut seulement le tort d'exprimer et la faiblesse de mettre en beau langage, sans s'apercevoir que combattre l'art avec l'art et l'esprit avec esprit, c'est se condamner à ne vaincre que pour l'esprit et pour l'art. Vous me rendrez cette justice, mon ami, que je ne suis pas tombé dans ces pitoyables contradictions et que j'ai renoncé à penser et à écrire dès que j'ai reconnu que la pensée est mauvaise et l'écriture funeste. Cette sagesse m'est venue, vous le savez, en 1882, après la publication d'un petit livre de philosophie qui m'avait coûté 1000 peines et que les philosophes méprisèrent parce qu'il était écrit avec élégance. J'y démontrais que le monde est inintelligible et je me fâchais quand on me répondit qu'en effet je ne l'avais pas compris. Je voulus alors défendre mon livre, mais l'ayant relu, je ne parvins pas à en retrouver le sens exact. Je m'aperçus que j'étais aussi obscur que les plus grands métaphysiciens et qu'on me faisait tort en ne m'accordant pas une part de l'admiration qu'ils inspirent. Mais c'est ce qui me détacha tout à fait des spéculations transcendantes. Alors je me tournai vers les sciences d'observation et j'étudiai la physiologie. Les principes en sont assez stables depuis une trentaine d'années. Il consiste à fixer proprement une grenouille avec des épingles sur une planche de liège et à l'ouvrir pour observer les nerfs et le cœur qui est double. Mais je reconnus tout de suite que par cette méthode, il faudrait beaucoup plus de temps que n'en assure la vie pour découvrir le secret profond des êtres. Je sentis la vanité de la science pure qui, n'embrassant qu'une parcelle infiniment petite des phénomènes, surprend des regards trop peu nombreux pour former un système soutenable. Alors je pensais un moment me jeter dans l'industrie. Ma douceur naturelle m'arrêta. Il n'y a pas d'entreprise dont on puisse dire d'avance si elle fera plus de bien que de mal. Christophe Colomb, qui vécut et mourut comme un saint et porta l'habit du bon saint François, n'aurait pas cherché sans doute le chemin des Indes s'il avait prévu que sa découverte causerait le massacre de tant de peuples rouges, à la vérité vicieux et cruel, mais sensibles à la souffrance, et qu'il apporterait dans la vieille Europe, avec l'or du nouveau monde, des maladies et des crimes inconnus. Je frissonnais quand de fortes honnêtes gens parlèrent de m'intéresser dans des affaires de canons, de fusils et d'explosifs où ils avaient gagné de l'argent et des honneurs. Je ne doutais plus que la civilisation, comme on la nomme, ne fût une barbarie savante et je résolus de devenir un sauvage. Il ne me fut pas difficile d'exécuter ce dessein à 30 lieues de Paris, dans ce petit pays qui se dépeuple tous les jours. Vous avez vu sur la rue du village des maisons en ruine. Tous les fils des paysans quittent pour la ville une terre trop morcelée qui ne peut plus les nourrir. On prévoit le jour où un habile homme, achetant tous ses champs, reconstituera la grande propriété, et nous verrons peut-être le petit cultivateur disparaître de la campagne, comme déjà le petit commerçant tend à disparaître des grandes villes. Il en sera ce qu'il pourra. Je n'en prends nul souci. J'ai acheté pour 6 000 francs les restes d'un ancien prieuré, avec un bel escalier de pierre dans une tour, et ce verger que je ne cultive pas. J'y passe le temps à regarder les nuages dans le ciel ou sur l'herbe, les fusées blanches de la carotte sauvage. Cela vaut mieux, sans doute, que d'ouvrir des grenouilles ou que de créer un nouveau type de torpilleur. Quand la nuit est belle, si je ne dors pas, je regarde les étoiles qui me font plaisir à voir depuis que j'ai oublié leur nom. Je ne reçois personne, je ne pense à rien. Je n'ai pris soin ni de vous attirer dans ma retraite, ni de vous en écarter. Je suis heureux de vous offrir une omelette, du vin et du tabac. Mais je ne vous cache pas qu'il m'est encore plus agréable de donner à mon chien, à mes lapins et à mes pigeons le pain quotidien, qui répare leurs forces dont ils ne se serviront pas mal à propos pour écrire des romans qui troublent les cœurs ou des traités de physiologie qui empoisonnent l'existence. À ce moment, une belle fille aux joues rouges, avec des yeux d'un peu pâle, apporta des œufs et une bouteille de vin gris. Je demandai à mon ami Jean s'il haïssait les arts et les lettres à l'égal des sciences. « Non pas, me dit-il. Il y a dans les arts une puérilité qui désarme la haine. Ce sont des jeux d'enfants. Les peintres, les sculpteurs barbouillent des images et font des poupées. Voilà tout. Il n'y aurait pas grand mal à cela. » Il faudrait même savoir gré au poète de n'employer les mots qu'après les avoir dépouillés de toute signification, si les malheureux qui se livrent à cet amusement ne le prenaient point au sérieux, et s'ils n'y dévouaient point odieusement, égoïste, irritable, jaloux, envieux, maniaque et dément. Ils attachent à ces niaiseries des idées de gloire, ce qui prouve leur délire. Car de toutes les illusions qui peuvent naître dans un cerveau malade, la gloire est bien la plus ridicule et la plus funeste. C'est ce qui me fait pitié. Ici, les laboureurs chantent dans le sillon des chansons des aïeux. Les bergers, assis au penchant des collines, taillent avec leurs couteaux des figures dans des racines de buis. Et les ménagères pétrissent pour les fêtes religieuses des pains en forme de colombe. Ce sont là des arts innocents que l'orgueil n'empoisonna pas. Ils sont faciles et proportionnés à la faiblesse humaine. Au contraire, les arts des villes exigent un effort, et tout effort produit la souffrance. Mais ce qui afflige, enlaidit et déforme excessivement les hommes, c'est la science qui les met en rapport avec des objets auxquels ils sont disproportionnés et altère les conditions véritables de leur commerce avec la nature. Elle les excite à comprendre quand il est évident qu'un animal est fait pour sentir et ne pas comprendre. Elle développe le cerveau, qui est un organe inutile aux dépens des organes utiles que nous avons en commun avec les bêtes. Elle nous détourne de la jouissance dont nous sentons le besoin instinctif. Elle nous tourmente par d'affreuses illusions, en nous représentant des monstres qui n'existent que par elle. Elle crée notre petitesse en mesurant les astres, la brièveté de la vie en évaluant l'âge de la terre, notre infirmité en nous faisant soupçonner ce que nous ne pouvons ni voir ni atteindre, et notre ignorance en nous cognant sans cesse à l'inconnaissable et notre misère en multipliant nos curiosités sans les satisfaire. Oh, je ne parle que des spéculations pures, et quand elles passent l'application, elles n'inventent que des appareils de torture et des machines dans lesquelles les malheureux humains sont supplifiés. Visitez quelques cités industrielles ou descendez dans une mine et dites si ce que vous voyez ne passe pas tout ce que les théologiens les plus féroces ont imaginé de l'enfer. Pourtant, on doute à la réflexion si les produits de l'industrie ne sont pas moins nuisibles aux pauvres qui les fabriquent qu'aux riches qui s'en servent, et si de tous les maux de la vie, le luxe n'est point le pire. J'ai connu des êtres de toutes les conditions. Je n'en ai point rencontré de si misérable qu'une femme du monde jeune et jolie qui dépense à Paris chaque année 50 000 francs pour ses robes. C'est un état qui conduit à la névrose incurable. La belle fille aux yeux clairs nous versa le café avec un air de stupidité heureuse. Mon ami Jean me la désigna du bout de sa pipe qu'il venait de bourrer. « Oui, me dit-il, cette fille qui ne mange que du lard et du pain, et qui portait hier au bout d'une fourche les bottes de paille dont elle a encore des bras dans les cheveux, elle est heureuse, et quoi qu'elle fasse, innocente. Car c'est la science et la civilisation qui ont créé le mal moral avec le mal physique. Je suis presque aussi heureux qu'elle, étant presque aussi stupide. Ne pensant à rien, je ne me tourmente plus. N'agissant pas, je ne crains pas de mal faire. Je ne cultive même pas mon jardin, de peur d'accomplir un acte dont je ne pourrais pas calculer les conséquences. De la sorte, je suis parfaitement tranquille. À votre place, lui dis-je, je n'aurai pas cette quiétude. Vous n'avez pas supprimé assez complètement en vous la connaissance, la pensée et l'action pour goûter une paix légitime. Prenez-y garde. Quoi qu'on fasse, vivre, c'est agir. Les suites d'une découverte scientifique ou d'une invention vous effraient parce qu'elles sont incalculables. Mais la pensée la plus simple, l'acte le plus instinctif, a aussi des conséquences incalculables. Vous faites bien de l'honneur à l'intelligence, à la science et l'industrie en croyant qu'elles tissent seules de leurs mains le filet des destinées. Les forces inconscientes enferment aussi plus d'une maille. Peut-on prévoir l'effet d'un petit caillou qui tombe d'une montagne? Mais cet effet peut être plus considérable pour le sort de l'humanité que la publication du Novum Organum ou que la découverte de l'électricité. Ce n'était un acte ni bien original, ni bien réfléchi, ni à coup sûr d'ordre scientifique que celui auquel Alexandre ou Napoléon dut de naître. Toutefois, des millions de destinées en furent traversées. Sait-on jamais la valeur et le véritable sens de ce que l'on fait? Il y a dans les mille et une nuits un conte auquel je ne puis me défendre d'attacher une signification philosophique. C'est l'histoire de ce marchand arabe qui, au retour d'un pèlerinage à la Mecque, s'assied au bord d'une fontaine pour manger des dattes dont il jette les noyaux en l'air. Un de ces noyaux tue le fils invisible d'un génie. Le pauvre homme ne croyait pas tant faire avec un noyau, et quand on l'instruisit de son crime, il en demeura stupide. Il n'avait pas assez médité sur les conséquences possibles de toute action. Savons-nous jamais si, quand nous levons les bras, nous ne frapperons pas, comme fit ce marchand, un génie de l'air? À votre place, je ne serai pas tranquille. Qui vous dit, mon ami Jean, que votre repos dans ce prieuré couvert de lierre et de saxifrage N'est pas un acte d'une importance plus grande pour l'humanité que les découvertes de tous les savants, et d'un effet véritablement désastreux dans l'avenir? N'est pas probable. Non, ce n'est pas possible. Vous menez une vie singulière. Vous tenez des propos étranges qui peuvent être recueillis et publiés. Il n'en faudrait pas plus dans certaines circonstances pour devenir malgré vous et même à votre insu le fondateur d'une religion qui serait embrassée par des millions d'hommes, qu'elle rendrait malheureux et méchant et qui massacrerait en votre nom des milliers d'autres hommes. Alors il faudrait donc mourir pour être innocent et tranquille. Prenez-y garde encore. Mourir, c'est accomplir un acte d'une portée incalculable. Fin.